Bonjour et bienvenue dans cette série de balados intitulée « Leadership en confiance », une collaboration entre parents partenaires en éducation et le conseil scolaire Viamonde. Je suis Mélanie Gatt, coach certifiée et consultante pour la firme Discitus, et je vous accompagnerai tout au long de 5 épisodes durant lesquels nous reviendrons et explorerons les thèmes abordés lors des sessions de coaching avec les parents leaders du conseil scolaire Viamonde. Cette série s'inscrit dans un projet d'engagement des parents soutenu par le comité de participation des parents du conseil scolaire Viamonde. À travers cette série, on va explorer ensemble les dimensions essentielles d'un leadership bienveillant, engagé et ancré dans la réalité des parents d'aujourd'hui. Alors que vous soyez déjà impliqué ou que vous envisagiez de le devenir, on espère que ces échanges vont vous inspirer à jouer un rôle actif et confiant dans la vie scolaire de vos enfants. Alors aujourd'hui, on aborde un thème incontournable dans le parcours de tout parent leader, la communication efficace et la gestion des conflits. Dans un rôle de leadership, quand on sait s'exprimer clairement, quand on sait écouter activement et désamorcer les tensions, c'est vraiment des compétences essentielles, mais aussi des apprentissages qu'on doit faire tous les jours. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Macaluso. Ensemble, on va mettre en lumière les réalités qui sont parfois complexes, mais aussi les belles réussites qui permettent une communication intentionnelle, respectueuse et alignée avec toutes ces valeurs, tout en créant de l'espace pour la voix des autres. Bonjour Sonia.
Bonjour, bon après-midi.
Alors, tu as eu le plaisir de regarder le webinaire qu'on a donné sur communication efficace et gestion des conflits. Quel mot te vient en tête, toi, quand on parle de conflit?
Ouh, ça, c'est une très bonne question. Et je dois t'avouer, quand j'ai eu la chance de regarder le webinaire, c'est vraiment... Vous avez vraiment discuté des sujets exactement comme... Je me sentais comme tu parlais exactement à moi au sujet des conversations lourdes qu'on veut avoir avec nos enfants, mais on ne sait jamais comment gérer ça pour pas que ça s'étire d'une journée à l'autre. Alors, j'ai vraiment apprécié le contexte et la façon que tu as tellement bien simplifié les étapes, les piliers, les définitions, les principales fondamentaux. Ah, je te dis, Mélanie, je pensais que tu parlais à moi personnellement, là.
Alors, Sonia, avant qu'on aille un petit peu plus loin là-dedans, est-ce que tu voudrais te présenter en tant que parent? Quelle est ton implication dans la communauté?
Ah oui, absolument. Merci, Mélanie. Alors moi, mon nom, c'est Sonia Macaluso. Je suis ici de Hamilton, Ontario. Ça fait au moins 10 ans depuis le cheminement de mes enfants en secondaire et en élémentaire que je participe avec le conseil des parents ainsi que j'appuie des projets avec PPE. Et au niveau de la communauté ici à Hamilton, je suis la présidente de l'ACFO Hamilton. Encore, c'est une autre organisation qu'on fait de tout ce qu'on peut, de tout notre pouvoir pour appuyer des services pour les francophones, peu importe les organisations qui cherchent de l'appui, comme PPE nous a délivré extraordinaire des appuis, des ressources, mais ça n'arrête pas là. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur d'être ici avec vous, Mélanie, et en partenariat avec PPE, j'appuie tellement le travail qu'ils font. C'est ça. Je suis débordée de fierté d'être ici aujourd'hui.
Oh, merci, Sonia. Alors, question pour toi. Comment tu te sens, toi, vis-à-vis du conflit dans la vie?
Oh, je te dis, Mélanie, les conflits dans la vie, ah, ça me casse la tête parce que je pense que il était une fois qu'est-ce qu'on abordait comme conflit à cet âge. C'est complètement une différente conversation comme aujourd'hui. C'est comme hier, il était une fois, on n'avait pas vraiment une opinion en tant qu'enfant. C'était tout ce que tu te faisais dire quoi faire et il n'y avait pas de négociation, il n'y avait pas de répercussions, il n'y avait rien. Mais c'est plus le cas aujourd'hui, c'est plus compliqué aujourd'hui.
Alors, tu sais, souvent on dit quand il y a un conflit, c'est un peu de ça dont on parlait dans le webinaire.
Oui.
Quand il y a un conflit, il y a une pensée automatique qui arrive dans notre tête, un petit peu comme si on se faisait un scénario, un film dans notre tête qui n'est pas nécessairement vrai dans la réalité, mais qui est vrai dans notre cœur. Et puis, on a une réponse destructrice. Hein. Des fois, on peut se replier, des fois, on peut partir au combat, des fois, on peut crier, des fois, on peut accuser l'autre, on peut argumenter. Toi, si je te demandais en toute humilité, là, aujourd'hui, comment tu gères ça, le conflit et puis tes pensées automatiques?
Ah, très bonne question. Je dois avouer que, en tant que parent qui aimerait être neutre le plus que possible envers mes enfants, et tu sais, comme vous avez abordé, c'est vraiment une conversation de n'importe quel adulte, mais surtout dans le contexte aujourd'hui pour nos enfants, en tant que parents. Mais j'essaie vraiment de me pencher sur certaines stratégies de ce que j'ai appris au fur et à mesure de mon cheminement. Et justement, comme tu avais dit dans la formation, les mots-clés, c'est pas vraiment la façon que je projette la conversation, mais c'est comme tu l'as dit, c'est la façon que eux autres, ils l'ont entendu, que c'est eux qui l'ont, la façon que eux autres l'ont compris, mais c'est pas comme ça que j'ai voulu l'exprimer.
Mm-hmm. Effectivement, tu as raison. Ce qui est très important, c'est que souvent, on se dit « ben oui, mais ce n'était pas mon intention de dire ça ou que tu ressentes ça. » Et en même temps, c'est comme ça que les gens l'interprètent. Et à ce moment-là, c'est avec ça qu'il faut dealer et non pas juste avec ce qu'on avait mis comme intention. Quelle stratégie, toi, tu retiens suite à ce webinaire?
Oh, les notes que j'ai prises, Mélanie. Les notes que j'ai prises! C'était vraiment comme une trousse d'or que tu nous avais abordée avec ces détails. Je dois dire, j'ai toujours pratiqué la façon de la sandwich, OK? Mais après, la façon que tu l'avais expliqué d'éviter la méthode de la sandwich, j'ai toujours pensé que ça, c'était vraiment pratique, c'était quelque chose de sécuritaire. Même, et je dois t'avouer là, en tant que formatrice pour d'autres organisations, on a été enseigné de toujours utiliser la méthode de la sandwich. Alors, quand tu nous as donné des stratégies de « j'ai particulièrement aimé », j'ai appris que et je me demande ce que ça aurait changé si tu m'as ouvert les yeux. Et vraiment, je pense complètement différent maintenant la façon que je veux approcher un conflit. Mais c'est comme tu as dit, c'est pas un conflit, c'est une conversation.
Oui, exact. Quand le conflit, c'est la situation qu'on vit à l'intérieur de nous. On fait comme, ouh, il y a quelque chose qui est désagréable et je me raconte une histoire. Il y a comme une pensée automatique qui vient, qui n'est pas du tout la vraie réalité de tout le monde. Puis à ça, évidemment, il faut à ce moment-là recadrer ses pensées. Puis ça, c'est un bel exercice que vous pouvez faire. Hein. C'est de se dire, OK, je recadre mes pensées. Puis si je devais donner une bonne intention à la personne avec qui je suis en train d'avoir le conflit en ce moment, ça serait quoi une autre bonne intention? Hein, comment je pourrais recadrer, revoir ça d'une autre façon? Puis, avant d'aller plus loin, je fais du pouce sur le feedback. Donc, le feedback sandwich qu'on connaît, c'est un positif, un négatif, un positif. Puis, on essaye de faire passer la pilule comme ça en se disant, ben, peut-être que ce qui a été au milieu, finalement, la personne s'en rendra pas trop compte parce que j'ai enrobé ça de beaux compliments. En programmation neurolinguistique, on change un petit peu le feedback et puis on l'utilise avec exactement les trois phrases que tu as reprises. Fait que ce que j'ai particulièrement aimé d'eux, ce que ça m'a permis d'apprendre et ce qui, ma curiosité, si ça avait été fait d'une autre façon ou ce que ça aurait été, si ça avait été différent. Et juste de donner ce feedback-là pour n'importe quelle situation, hein, que ce soit si vous êtes sur un comité de parents, si vous avez organisé des activités, des choses comme ça, juste de donner ce feedback-là, ça devient quelque chose de très, très autonomisant. Je vais prendre ce mot-là. Ça va vraiment rendre beaucoup plus autonome les personnes à qui vous le donnez. Ça augmente la confiance, ça augmente l'estime. Et puis pour vous, c'est très positif aussi. Fait que donner du feedback comme ça. Sonia, as-tu déjà eu à gérer des conflits, si on part un peu sur les conflits, là?
Oh, oui. Surtout, Tu sais, dans notre vie quotidienne, oui, on est sur le conseil des parents ou des fois, on est sur un membre du CA, d'une autre organisation. Et des fois, il y a des gens que ça fait des années qui sont siégés à ce poste, puis c'est vraiment difficile d'aborder un sujet à cause qu'ils l'ont toujours fait de cette façon. Alors, oui, je dois t'avouer, je crois ça au moins une fois par semaine. Quelqu'un qui veut faire de sa tête, qui ne veut pas ouvrir la possibilité de comment est-ce qu'on pourrait revisiter. Je me demande si on aurait changé quoi. Tu sais, les questions comme tu avais proposées. Alors, c'est là que je me mets dans le mode. Comme, exactement comme tu le dis. Tu sais, des fois, c'est comme tu ouvres le frigo, puis le lait, il est justement devant toi, mais tu ne le vois pas, mais il est là! C'est exactement la stratégie que tu avais partagée de comprendre, tu prends une pause. De ajuster, tu prends une pause et tu écoutes. Et c'est pas tout le temps en train d'essayer de trouver une solution, une réponse au plus vite possible pour rebousculer ta réponse sans écouter et d'améliorer notre propre comportement. C'est justement les astuces que tu nous as partagées que j'essaie de vraiment incorporer ça. C'est, oui, du jour, là, je dois t'avouer, c'est évident, c'est avec les cercles qu'on se trouve dedans, soit, comme j'ai dit, des organisations, même tes voisins, même autres parents.
Exact. Puis, tu sais, c'est intéressant quand j'aime quand tu parles, tu sais, des gens qui, des fois, peuvent nous paraître fermés ou on a toujours fait comme ça, qui voient peut-être pas la raison, le sens à faire différemment. Puis ça peut générer des conflits entre des gens qui voudraient changer des choses parce qu'ils voient que c'est peut-être pas optimisé, c'est peut-être pas efficace. Puis des gens qui se disent, ben, c'est peut-être juste bien comme ça. On est confortable dans ce qu'on connaît. Ça amène souvent l'idée de l'insécurité des gens. Je vous invite avec quand on parle de bonnes intentions, d'intentions positives, à quand vous voyez quelqu'un qui, dans votre tête, quand vous vous dites « Oh, cette personne est bien fermée, là ben, », dites-vous que cette personne, elle est en insécurité, qu'il y a quelque chose qui bloque en elle, qui lui permet de ne pas aller au-delà de ce qu'elle a devant les yeux. Donc, cette insécurité-là, quand on met cette personne-là dans cette perspective, ben, ça devient tout de suite plus apaisant. Hein, c'est pas comme si on était attaqué par une personne, c'est simplement parce que l'autre est en insécurité. Donc, de quelle façon, quand l'autre est en insécurité, moi, ma job, finalement, c'est de la rassurer. Et la rassurer, c'est de la questionner. Qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce qui t'inquiète en ce moment dans la situation qu'on vit? Comment on pourrait aller plus loin ensemble? Fait que ça, des fois, ça nous amène à avoir des conversations difficiles. Je ne sais pas si tu as vu ça, Sonia, dans le webinaire, les conversations difficiles, les étapes pour aborder une conversation difficile. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder ou d'écouter ça?
Oui, j'ai vu les étapes. J'ai ça dans mes notes. J'ai les préparations personnelles, la fenêtre d'empathie que tu viens juste de toucher. Rester neutre, nommer votre intention positive, s'appliquer sur des faits concrets, écouter active et bienveillant et poser une question ouverte. J'ai bien écouté.
C'est quoi ton expérience avec ce genre de conversation-là pour toi, Sonia?
Je dirais... Quand j'ai fait un petit peu de testing de cette stratégie, on dirait, c'est comme tu as dit, ça adoucit un petit peu le chat qui est part dans le coin, tu sais. Ça adoucit un petit peu la conversation que il y a personne qui veut gagner un point ici, on veut essayer de collaborer. Je veux essayer d'avoir de l'empathie. C'est quelqu'un qui manque de sécurité, comme tu as dit, qui a peur que quelqu'un va le remplacer ou quelqu'un qui va dire quelque chose contre eux. Alors, on dirait que ça adoucit un peu. Quand les gens ne se sentent pas attaqués, c'est plus fluide.
Exact. Puis on dit souvent qu'on a 90 secondes pour aborder une conversation difficile. Alors, les 90 secondes, comme tu l'as dit, il doit y avoir le sujet qui est abordé de manière neutre, hein, sans aucun jugement. Donc, on reste dans le fait. Aujourd'hui, Sonia, j'aimerais te parler de... Et point, c'est tout. Ensuite, on doit apporter nos bonnes intentions. Hein, cette discussion, j'ai comme intention qu'on collabore mieux après. Donc, voici mon intention à ce moment-là. Ça enlève toutes les insécurités de la personne qui pourrait se dire « Oh, OK, pourquoi elle veut me parler? C'est-tu parce qu'elle ne veut plus que je travaille ensemble? C'est-tu parce qu'elle me déteste? C'est-tu parce qu'il va y avoir une conséquence? » Elle commence à avoir des histoires, alors que si on lui dit tout de suite, c'est parce que j'ai envie de continuer à bien travailler en équipe, à mieux collaborer, à bien communiquer avec toi, à utiliser ton potentiel au maximum, ça devient très rassurant. Puis en plus, après ça, tu l'as dit, c'est de rester dans le factuel. Donc, on ne va jamais partir dans l'émotionnel, on va toujours rester dans « tu te souviens quand ça, ça s'est passé, et puis ça, et puis ça ». Et on ne donne pas une liste exhaustive, on va juste donner deux ou trois idées. Et puis ensuite, de dire « ben voici ce dont moi, j'aurais eu besoin ». Et là, de nommer son besoin, puis de nommer comment l'ouverture, hein, tu l'as dit aussi, la question finale, c'est une question d'ouverture. Comment toi, tu vois les choses? En gros, je veux avoir ta version des faits. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais toi, comment tu l'as vécu? Donc ça, c'est très intéressant dans une conversation difficile hein, de se dire, ben, je ne tourne pas autour du pot, mais je ne vais pas trop direct. En 90 secondes, je suis capable d'avoir abordé un sujet neutre avec une bonne intention, puis de rester dans le factuel et de finir par une question ouverte. Juste ça, ça permet de, comme tu l'as très bien dit, Sonia, d'adoucir la conversation. As-tu eu des conversations difficiles à tenir, Sonia?
Il y en a une en particulier qui me saute à l'esprit ici, que ça a pris beaucoup, beaucoup d'empathie et de conversation et d'essayer de ne pas juger et de ne pas m'éloigner non plus. C'est une conversation que j'ai eue avec ma fille récemment pour sa fête 19 ans. Elle voulait avoir soit... je pense à un autre trou dans son oreille où elle voulait un tatou. Alors, ça, pour moi, en tant que parent, c'était une conversation assez... je n'étais pas prête. Et puis, c'est assez difficile comme parent. Tu veux avoir un esprit ouvert. Tu veux que ton enfant ait leur indépendance, mais aussi tu connais... le parcours de la vie, tu as de l'expérience vécue et tu te dis en toi-même, est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais pour mon enfant? Alors, c'est là que j'aimerais te relancer la balle, Mélanie, si je pourrais. Et est-ce que tu aurais des conseils? Parce que c'est vraiment une conversation que j'ai dit, OK, on va prendre une pause, on va prendre un respire, puis on reviendra sur le sujet. Alors, j'aimerais ça savoir parce que je trouve que des fois, c'est le timing. Alors, si c'est pas vraiment, c'est le bon temps, c'est pas avant d'aller se coucher, c'est pas à l'arrivée de l'école. Est-ce que tu aurais de quoi pour partager pour un sujet en tant que parent comme ça qui est lourd ou ce que ton enfant, s'ils veulent faire de leur tête, ils veulent faire de leur tête, mais comment est-ce qu'on pourrait essayer d'aborder cette question sans... les pousser dans un coin puis qu'on soit celui ou celle c'est nous qui l'ont mis dans ce coin-là.
Mais c'est intéressant parce que, puis oui, absolument, j'ai une réponse pour toi. Le cerveau, il va avoir une tendance à argumenter. C'est-à-dire que si quelqu'un a quelque chose comme il désire, alors prenons par exemple ce tatouage-là, je désire ce nouveau tatouage-là, si j'en parle à mon parent puis que mon parent va contre mon idée, mon cerveau automatiquement va aller avec un contre-argument. Il y a personne qui va dire « Oh oui, c'est vrai, t'as raison. » Ça n'existe pas. Les gens vont être dans le contre-argument, puis c'est normal parce qu'ils sont là pour défendre un point de vue. Et à ce moment-là, c'est très basic comme réaction. Hein. C'est très quasiment, c'est du cerveau reptilien qui est « Je suis en mode survie, j'ai besoin d'être conforté dans ma décision. » Donc il va y avoir comme une escalade d'argumentaire, comme quelqu'un va dire « oui, non, oui, non, oui, non », ce serait une escalade d'argumentaire. Alors, pour éviter l'escalade, parce qu'il y a des fois où c'est vraiment pas intéressant d'aller là-dedans, c'est vraiment d'être en position de comprendre le point de l'autre personne. Donc, je dis souvent, c'est important de questionner pour comprendre et non pas pour convaincre. C'est-à-dire que je vais aller la questionner. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de le faire, ce tatou? Qu'est-ce que tu penses que ça va t'amener quand tu... Tu sais, si tu te vois dans 20 ans avec ce tatou à cette place-là, comment tu vois ça? Tu sais, des questions qui ne sont pas orientées pour la faire changer d'avis, mais qui sont vraiment comme si tu te mettais à côté d'elle, quelqu'un que tu vas avoir une sorte de complicité. Donc, une fois qu'on a fait ça, souvent, c'est de nommer nos propres peurs. Parce que c'est bien beau de dire à l'enfant, non, je veux pas que tu le fasses, mais au fond, soyons clairs, c'est parce qu'on a peur de quelque chose qu'on veut pas qu'il le fasse. Et c'est tout à fait correct. Et c'est là la différence entre dire à quelqu'un, je veux pas que tu le fasses, versus, écoute, si tu le fais, voici ce dont moi j'ai peur. J'ai peur que tu le regrettes. J'ai peur que dans 20 ans, ça soit mal vu. J'ai peur que, peu importe les raisons, mais de nommer ce dont j'ai peur. Ça vient tout de suite donner une... Tu l'as très bien dit tantôt, je vais reprendre ton mot, ça adoucit la conversation parce que l'autre sent que, oh, OK, maman, elle n'est pas en train de me dire que je suis nulle et qu'elle remet en cause mon jugement. Elle est juste en train de me dire qu'elle m'aime en me disant « j'ai peur pour toi ». Qu'est-ce que ça change dans ton esprit, Sonia, quand je te donne ça?
Je dois dire, c'est très adouci, comme tu l'as dit. Et je n'ai pas peur de dire que j'ai le courage d'aborder l'inconfort. C'est exactement comme tu as dit, d'être capable d'expliquer le pourquoi, le sentiment d'écouter. Et puis, en effet, c'est vraiment une conversation qui pourrait être transférée sur d'autres sujets, d'autres domaines. Mm-hmm. Mais celui-ci, c'est un petit peu plus délicat, autrement dit. Mais oui, c'est les stratégies que vous avez partagées. Mais des fois, on a besoin de le présenter d'une différente façon, comme vous l'avez fait. Mm-hmm. J'ai vraiment apprécié comment vous l'avez délivré.
Oh, merci. Merci. Fait que, ce qui serait important de retenir ici, peut-être s'il y avait une chose à retenir, c'est n'hésitez pas à nommer vos peurs. Donc, que vous rentriez dans un conflit, que vous rentriez dans un dialogue, une conversation un peu plus difficile, nommez vos peurs au jeu. Aujourd'hui, pour moi, là, dans cette conversation, j'ai peur de... trois petits points. Juste ça vient comme faire un fouf. Ça vient d'adoucir, ça vient d'alléger les choses parce que ça a été nommé. Donc, si on commence par nommer nos peurs dans la vie, ça aide beaucoup, ça nous rend un peu vulnérables, mais d'une belle façon. Et ça va créer ce qu'on appelle la confiance vulnérable, hein, la confiance dans l'autre que j'ai le droit d'être vulnérable et je ne serai pas jugée pour ça. Comment ça te parle, ça, Sonia, cette confiance vulnérable?
C'est difficile, je dois t'avouer, parce qu'en tant que parent, tu ne veux pas paraître vulnérable, mais je comprends exactement ton point parce que ça ne sera pas tout le temps des conversations avec tes enfants, ce sera une conversation qui peut être transférée, mais oui, d'un côté, il faut qu'ils voient qu'aussi on est humain, qu'on n'est pas toujours parfait, on n'a pas toujours les réponses, on est inquiète que oui, on a des vulnérabilités, que ça soit physique, que ça soit mental, que les peurs sont les peurs et ils vont comprendre que c'est vraiment de bon cœur.
Oui. On en revient à la bonne intention.
Oui.
Vraiment nommer l'intention de... Mon intention aujourd'hui, ce n'est pas de te faire changer d'avis. Mon intention aujourd'hui, c'est de te donner toutes les ressources et toutes les questions que j'ai. Mon intention, au fond, aujourd'hui, c'est de partager. Quand on nomme ça à notre enfant, à notre collègue, à des parents avec qui on travaille, mon intention, c'est de... Et on met quelque chose de positif. Déjà, on vient de gagner notre conversation. Avant de conclure, Sonia, t'aurais-tu un petit mot de la fin de ton côté?
La seule chose que j'aimerais partager, c'est que c'est avec tout ce qu'on a à considérer de ces jours-là, de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui devrait gérer notre temps, je pense qu'il n'y a pas assez de conversations autour de communication. Comment vraiment communiquer effectivement et non de s'attaquer et qu'il y a toujours quelqu'un qui va gagner un pardon. Je pense que le numéro, si on pourrait tous avoir quelque chose de comme une formation ou même un petit survol pour nous rappeler l'importance de la communication, ça pourrait éviter tellement des affaires de passer croche. C'est vraiment la communication simple, des gestions, comment exactement l'atelier sur la communication et les gestions des conflits, c'est juste, ça tourne toujours autour de la communication. Alors, il y a tellement une importance sur ce sujet, Mélanie, que je pense qu'on devrait continuer ça plus profondément.
Oh, et merci Sonia pour ton partage, un partage qui est riche, qui est profondément humain. Alors, cet échange, ça nous rappelle que la communication, ça ne se limite pas aux mots, que ça passe par notre écoute, par notre attitude, par le ton de notre voix et surtout, surtout par notre intention, notre bonne intention. Hein. Gérer les conflits, ça ne veut pas dire qu'on doit les éviter. Puis, on va se le dire franchement, il va y en avoir des conflits. On est dans des situations relationnelles tous les jours. L'idée ici, c'est de les apprendre plutôt avec une grande ouverture, avec du respect, avec du courage. Alors, en tant que parent leader, chaque interaction, c'est une occasion d'incarner vos valeurs, de cultiver votre climat de confiance, même dans des moments de tension. Aujourd'hui, je remercie encore le Conseil scolaire Via Monde et le Comité de participation des parents pour leur initiative, leur soutien financier dans la réalisation de cette série de balados. Et on vous retrouve au prochain épisode pour poursuivre cette exploration du leadership parental avec une discussion autour du leadership inclusif et diversité. Merci Sonia.
Merci Mélanie.